VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour Nathalie Barge et Anne Albertson. Au sommaire ce vendredi 15 mai 2015.
Crise politico-militaire au Burundi. Le numéro 2 de la junte, le général Cyril Ndayi Rukiye, aurait été arrêté par les forces loyalistes, selon le correspondant du journal Le Monde, Jean-Philippe Rémy.
Et selon l'AFP, le chef des putschistes aurait annoncé leur reddition.
Ces informations restent à vérifier. Dans cette demi-heure, également la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal.
Nous venons de le dire, le numéro 2 de la junte, le général Cyril Ndayi Rukiye au Burundi, aurait été arrêté par les forces loyalistes, selon le correspondant du journal Le Monde, Jean-Philippe Rémy. Selon l'AFP, le chef des putschistes aurait annoncé leur reddition. Un peu plus tôt dans la soirée, le numéro 2 aurait reconnu l'échec du coup d'État, selon Le Monde. Il a dit « Nous avons rencontré une trop grande détermination militaire pour soutenir le système au pouvoir. »
Plus tôt dans la journée, un porte-parole putschiste avait déclaré au service Afrique centrale de la Voix de l'Amérique que les loyalistes ont gardé le contrôle de la radio et télévision d'État et que les partisans du coup d'État se sont retirés de la zone. Après environ une heure et demie d'interruption, jeudi, la radio nationale a repris sa diffusion pour diffuser des chansons appelant à l'unité. Ici à Washington, Jeff Rath, qui porte-parole du département d'État, a déclaré que les États-Unis reconnaissent Pierre Nkurunziza comme président légitime du Burundi et il a appelé toutes les parties à éviter la violence et à respecter les droits de l'homme. Le général Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement burundais limogé le 18 février dernier, a utilisé des radios privées pour annoncer la destitution du président mercredi.
Et le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné la tentative de coup d'État au Burundi. Écoutons le représentant de la France au Conseil, l'ambassadeur François Delattre.
Nous avons eu des consultations très intenses et constructives qui nous ont permis d'entendre la présentation par l'envoyé spécial, M. Djinit, de la situation sur place et qui a permis ensuite aux membres du Conseil de sécurité de marquer leur unité autour d'un message permettant la réduction de la violence, qui est notre première priorité, à tous, unanimement partagé autour de la table du Conseil de sécurité et autour d'un effort de l'ensemble des parties visant à renouer les fils du dialogue et à retrouver un processus politique permettant au Burundi, dans le respect des accords d'Arusha, de sa constitution, de retrouver les chemins du dialogue et de la paix. Nous faisons confiance à M. Djinit, qui continue son effort de médiation avec le plein soutien du Conseil de sécurité. Je crois que c'est tout ce que nous pouvons dire à ce stade.
François Delattre, représentant de la France au Conseil de sécurité de l'ONU.
La dégradation de la situation au Burundi a fait hier l'objet d'une réunion d'urgence au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'organisation continentale a appelé au dialogue pour résoudre la crise politique. Les précisions de Timothée Donangmaï.
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a pris plusieurs décisions, notamment l'envoi rapide d'observateurs des droits humains au Burundi, a indiqué sa présidente, Mme Diallo Amina Djibo. Toutefois, cette dernière n'a pas précisé le nombre ou la date d'envoi de ces observateurs.
The PSC strongly condemns.
Le Conseil de paix et de sécurité condamne fermement toute tentative de prendre le pouvoir par la force et toute tentative contre la paix. Le Conseil a appelé toutes les parties burundaises à créer de toute urgence un environnement propice au dialogue pour résoudre la crise par des moyens pacifiques et légaux, a déclaré la présidente du Conseil. Sur ce point également, le Conseil de paix et de sécurité n'a pas imposé de délai pour y parvenir ou préciser ce qu'il ferait si la situation continuait de se détériorer.
Le président burundais n'a pas été revu en public depuis mercredi et le sommet régional de Dar es Salaam. Selon la présidence, Pierre Nkurunziza serait rentré au Burundi, mais aucune source indépendante ne permet de confirmer l'information. Willy Nyamitwe, son porte-parole à VOA Afrique.
Bien sûr, Pierre Nkurunziza contrôle le pays. Il est le président de la République élu. Hier, il y a eu une tentative fantaisiste de coup d'État qui a échoué et le président de la République est au Burundi. Il est arrivé au pays et contrôle et l'armée et la police et reste le président de la République du Burundi élu. Et donc, il condamne ce coup d'État, il condamne ce putsch et les putschistes sont en cavale.
Alors, information très importante que vous donnez ce soir, Willy Nyamitwe, vous affirmez que Pierre Nkurunziza se trouve au Burundi. Quand regagnera-t-il la capitale ?
Mais il se trouve au Burundi, et bien beaucoup de gens veulent savoir où il est, dans quelle commune, quelle colline, quelle province. Et bien l'information qui est là et qui est suffisante, c'est que le président de la République est au Burundi. Et vous savez que même quand il est au Burundi, il ne reste pas dans une seule province ou dans une même commune, il reste toujours auprès de la population. Donc le président de la République est au Burundi et c'est l'essentiel. Quant à savoir dans quelle commune, dans quelle province, eh bien cela, je ne pourrais pas vous le dire directement.
Alors,
pour des raisons de sécurité et de stratégie.
Willy Nyamitwe, porte-parole de Pierre Nkurunziza, joint par Nicolas Pineau dans Washington Forum, également présent dans l'émission télévisée de VOA Afrique, Robert Jackson, le sous-secrétaire d'État adjoint chargé des affaires africaines, a rappelé la position de Washington.
Écoutez, nous estimons que la situation reste très fluide et nous suivons de près les développements. Je viens de parler avec notre ambassadeur à Bujumbura. Et nous croyons que les positions exprimées par les Nations Unies et la communauté de l'Afrique de l'Est sont importantes. Nous condamnons la violence, nous appelons à tout le monde à régler les différends paisiblement et nous espérons qu'on peut relancer le dialogue et préparer le terrain pour des élections. Nous appelons toujours à la restauration du camp pour avoir des élections. C'est important de restaurer un dialogue et que le président Nkurunziza regarde de nouveau sa recherche d'un troisième mandat.
Ailleurs en Afrique, les pays du Sahel, en première ligne dans la lutte contre le terrorisme et le trafic de migrants vers l'Europe, se sont engagés jeudi à intensifier leur coopération, et ce en présence du ministre français de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad ont, dans une déclaration commune dite de Niamey, reconnu que seule une action commune est à même de relever ces défis. En matière d'immigration, les États se sont engagés à prendre des mesures en amont pour empêcher les migrants d'arriver sur les côtes italiennes. Le Sahel est l'une des zones les plus pauvres au monde. Ses 137 millions d'habitants y vivent avec des indices de développement parmi les plus bas. Ces États peinent à juguler les groupes islamistes tels qu'Acmi ou Boko Haram. Les représentants du G5 Sahel, créés l'an dernier pour contrer la menace terroriste, se sont ainsi engagés hier à mettre en place un système de communication informatisé et sécurisé pour échanger des informations. C'est la clé de l'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, a commenté Bernard Cazeneuve, invité à cette réunion avec son homologue espagnol, Jorge Fernandez Diaz.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont de nouveau exhorté jeudi les pays d'Asie du Sud-Est à sauver les milliers de migrants en perdition en mer. Au lieu de repousser leurs embarcations, le porte-parole du département d'État américain, Jeffrey Ratke, n'a pas caché l'inquiétude de Washington face à cette situation humanitaire désespérée. Des précisions avec Eddie Isango plus tard.
Le président américain Barack Obama a déclaré que les États-Unis ont pris un engagement à toute épreuve pour la sécurité de leurs alliés du Golfe et envisagé d'utiliser la force militaire s'ils étaient menacés. Monsieur Obama a accueilli jeudi à la retraite présidentielle de Camp David des dirigeants et ministres de haut rang des 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Étaient présents notamment le prince et les vice-princes héritiers saoudiens, les émirs du Koweït et du Qatar et de hauts fonctionnaires de Bahreïn, d'Oman et des Émirats arabes unis. M. Obama a déclaré que les États-Unis redoubleraient d'efforts pour aider les pays du Golfe à répondre à toutes sortes de menaces. Cela implique des exercices militaires et une assistance de développement de la défense antimissile et des capacités d'intervention rapide.
Le groupe État islamique a publié un message audio qu'il attribue à son chef Abou Bakr al-Baghdadi, qui n'a pas été vu ou entendu depuis des mois. Le message invite les musulmans à prendre les armes pour sa cause et à émigrer au califat qu'il a proclamé dans les régions de la Syrie et de l'Irak. Le message de propagande islamiste dit qu'aucun musulman ne peut être excusé de ne pas adhérer à sa cause. Les agences de presse occidentales n'ont pas été en mesure de confirmer si la voix était réellement celle de Baghdadi.
La Chambre des représentants américaine a voté massivement un projet de loi donnant au Congrès le droit d'approuver ou de rejeter un accord nucléaire avec l'Iran. Le Sénat a adopté la mesure la semaine dernière. La Maison-Blanche a dit que le président Barack Obama, qui avait menacé d'opposer son veto, envisage maintenant de le signer. Le projet de loi donne au Congrès 30 jours pour examiner un accord sur le nucléaire entre l'Iran, les États-Unis et 5 autres grandes puissances mondiales.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs. La Minute Éco vous est présentée par Camille Gros-Didier.
En Guinée, la société Louis Berger va appuyer la remise en état d'une route majeure. Il s'agit de la route nationale 1 qui pourra être prolongée à l'avenir vers le sud-est du Mali. Ce contrat est le fruit de notre volonté d'établir un partenariat fort avec le ministre guinéen des Travaux publics et reflète notre expérience de plus de 25 ans dans le pays, a indiqué Pascal Oudo, directeur général adjoint aux opérations pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, qui est cité dans un communiqué. But de l'opération, stimuler le commerce national et international en reliant des axes de transport stratégiques et en développant les infrastructures de transport du pays. Et puis au terme de sa visite en République démocratique du Congo, la directrice générale de la Banque mondiale a salué les réalisations du gouvernement, mais elle a estimé que le pays est confronté à des défis dans les secteurs du social et de l'économie. Il s'agit notamment pour le gouvernement Kabila de consacrer davantage à la santé et l'éducation. À Kinshasa et à Goma, Mme Sri Mulyani Indrawati a noté que la réforme des entreprises publiques permettrait de mieux développer l'économie et de créer des richesses tout en réduisant la pauvreté. Analysant la croissance, elle a fait remarquer que celle-ci est essentiellement tirée par le secteur minier et que la diversification de l'économie pourrait briser la dépendance vis-à-vis des activités minières. Et à ce sujet, elle s'est félicitée que le gouvernement cherche à étendre les parcs agro-industriels pour porter leur nombre de 22 à 26. Madame Sri Mulyani Indrawati a également évoqué la nécessité de réformes pour lutter plus vigoureusement contre la corruption.
Merci Camille pour la Minute Éco. À présent les sports avec Bagassi Koura. Bonjour Bagassi.
Oui, bonjour Nathalie.
La Gambie a un nouvel entraîneur.
Oui, le Suisse Raoul Savoie a été officiellement désigné ce jeudi sélectionneur des Scorpions, passé dernièrement à la tête des Fauves du Bazoubangui de Centrafrique fin 2014. Raoul Savoie reprend donc du service en Afrique. Le technicien suisse de 41 ans, ancien coach du FC Sion, aura pour mission de qualifier les Scorpions pour la CAN 2017. Il faudra pour cela sortir d'un groupe éliminatoire comportant également le Cameroun, la Mauritanie et l'Afrique du Sud. Premier adversaire avant cette rencontre face au Bafana Bafana, Savoie et ses hommes seront rassemblés en Ouganda.
En boxe, le combat du siècle qui a eu lieu il y a quelques semaines semble tenir toutes ses promesses, du moins sur le plan financier.
Oui, ce combat entre le Philippin Manu Pacquiao et l'Américain Floyd Mayweather devrait générer au final plus de 500 millions de dollars de recettes, estimation faite par les organisateurs selon les chiffres publiés mardi par les diffuseurs du combat, HBO et Showtime. Notamment, la victoire de Mayweather a généré 4,4 millions d'achats à la séance, soit des recettes de plus de 400 millions de dollars pour le marché américain uniquement. Le combat qui a permis à Mayweather le 2 mai de rester invaincu, 48 victoires sur 48, est entré comme attendu dans l'histoire de la télévision.
Du tennis à présent, les Masters de Rome.
Oui, le Suisse Roger Federer, numéro 3 mondial, s'est qualifié pour les quarts de finale aux dépens du Sud-Africain Kevin Anderson, battu 6-3, 7-5. Au prochain tour, Federer affrontera le Tchèque Thomas Berdych ou l'Italien Fabio Fognini. Et pour terminer, les play-offs de la NBA, le championnat de basketball nord-américain.
Oui, hier soir dans l'Illinois, Chicago a perdu à domicile face à Cleveland de 73 à 94. L'autre match de la soirée, les Clippers ont perdu à Los Angeles contre Houston Rockets, 107 à 119.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Crise politico-militaire au Burundi. Le numéro 2 de la junte, le général Siri Ndayi Rouki, aurait été arrêté par les forces loyalistes, selon le correspondant du journal Le Monde, Jean-Philippe Rémy. Et la peur s'est installée à Bujumbura, après la liesse populaire qui avait suivi l'annonce de la destitution du président Nkurunziza mercredi. Des combats ont eu lieu jeudi autour de la radio nationale et des radios privées. Les radios privées ont été détruites. Pour une réaction, Idriss Fall a joint Onesphore Ndwayo, un habitant de Bujumbura.
Moi, j'ai vu des femmes, des hommes dans la rue qui exprimaient leur volonté, qui exprimaient leur préoccupation par rapport à la situation actuelle. Des mères qui exprimaient leur déception par rapport à l'emprisonnement de leurs enfants, par rapport aux assassinats dans la rue, par des éléments de la police. Mais en même temps, il y a eu une liesse dans la rue lorsqu'ils ont appris qu'il y avait des changements à la tête de l'État opérés par un groupe de militaires qui se disaient redresser la situation avec à la tête un comité dit de réhabilitation de la concorde nationale. Aujourd'hui, il y a des radios qui ont été privatisées, donc ils n'émettaient plus les radios privées. La radio nationale, en certain moment, a été interrompue dans ses émissions. Et par après, nous avons entendu des messages un peu contradictoires, mais aussi qui n'inspiraient pas nécessairement la confiance. Donc je suis un peu déçu par la confusion que nous vivons, sans que nous puissions avoir une information réelle qui puisse rassurer la population burundaise, qui pourtant a soif de paix et qui, bien sûr, aspire au développement à travers une politique visionniste.
Mais c'est deux camps qui s'affrontent, notamment sur le troisième mandat.
Bon, la lecture des textes sur lesquels nous appuyons est un peu controversée de la part des deux groupes. Et nous estimons que, pour nous, il y a eu deux mandats présidentiels, c'est-à-dire 5x2, mais d'autres disent qu'il y a un mandat qui n'a pas de qualification pour eux pratiquement, un mandat où il y a eu une élection à suffrage universel, et donc que le chef de l'État a droit à un autre mandat à suffrage universel. C'est ça qui a divisé les Burundais et qui maintenant est source de confrontation au niveau des forces armées. Et nous disons que cette question, normalement, devrait être lue de manière unique. Et nous regrettons que finalement, c'est la décision de la Cour constitutionnelle qui a attisé le feu dans cette histoire.
Est-ce qu'il n'y a pas de risque parce que le Burundi a une tradition de coup d'État et de rébellion?
Avec les accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, cette question de coup d'État avait déjà été résolue. Puisqu'il y avait un modus vivendi au niveau de la gestion politique du pays et il y avait eu des clarifications quant à la tenance politique au niveau des mandats. Donc la raison pour laquelle nous, des citoyens ordinaires, nous sommes un peu surpris de voir qu'une telle question puisse lever autant de situations, surtout qu'il y ait des morts, qu'il y ait des emprisonnements, qu'il y ait des blessés, des handicapés, face à une question qui normalement ne devrait pas diviser les Burundais si on fait une lecture sérieuse et réellement juste de la situation.
Onesphore Ndwayo, un habitant de Bujumbura. Selon l'historien Deo Akizimana, la crise burundaise est indissociable du conflit qui embrase la région des Grands Lacs depuis des années. Au micro de Frédéric Nkundikidje du service Kirundi Kinyarwanda de la Voix de l'Amérique, le fondateur du Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le dialogue.
Le Burundi est au cœur d'une région troublée depuis plus de 20 ans. C'est un conflit géopolitique majeur qui secoue l'Afrique jusqu'au-delà des frontières continentales. Et j'ai le sentiment que même si on ne le dit pas très clairement, c'est difficile évidemment à déclarer parce que je n'ai pas toutes les informations, mais j'ai le sentiment que la question des contrats miniers, la question du contrôle des ressources est au cœur des rivalités qui sont en train de se jouer et qui se sont manifestées à travers la question du troisième mandat.
Est-ce qu'on peut avoir des détails? Parce que là, vous nous révélez une information tout à fait nouvelle.
Je suis de formation géopoliticienne, donc je cherche la vérité où elle se trouve. J'analyse les non-dits, les on-dits, etc. Et j'ai compris que dans ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, il est faux, ne le dites plus, que le Burundi est un pays pauvre. Non, c'est un pays extrêmement riche. Certaines ressources minérales qui se trouvent dans le Congo voisin se trouve également au Burundi. Vous avez vu que nous avons un nickel de haute qualité qui compte parmi les meilleurs de la planète. J'ai entendu que d'autres découvertes ont été faites. Le lac Tanganyika est une richesse stratégique et introuvable nulle part ailleurs en Afrique, sinon qu'au Burundi, au bord de la ville de Bujumbura. Bujumbura est la seule capitale de l'Afrique des Grands Lacs qui est riverain de ce lac Tanganyika, qui est une manne. Vous savez, c'est la deuxième réserve mondiale d'eau douce, un lac très profond dans lequel il y aurait des hydrocarbures, etc. Et vous savez que ça suscite des appétits. C'est l'histoire des guerres par procuration, des guerres où les élites locales vont se livrer à des conflits fratricides en pensant qu'ils sont opposés par des aspects ethniques, régionalistes, claniques, et j'en passe, alors qu'en réalité, ils sont en train de s'entremanger à cause de problèmes de contrôle des ressources.
Est-ce que vous voyez des voies de solution dans les médias pour la crise burundaise?
Il n'y a qu'une seule voie, c'est celle, paraît-il, qui a été tentée hier après-midi. Et jusque dans la soirée, nous avons cru entendre que les militants et les forces royalistes ont tenté de discuter pour qu'ils puissent s'entendre. Pendant qu'à Dar es Salaam se tenait le sommet qui s'est terminé en queue de poisson, comme vous le savez. Et la négociation, je ne sais pas si je dois l'appeler négociation, si je dois l'appeler médiation ou bien dialogue politique. Mais ce qui est clair, c'est que ce matin, quand on s'est réveillé sous les coups de feu, qu'à midi, dans la mi-journée, on a entendu des armées lourdes crier autour de la station de radio télévision, nous avons cru comment que ce dialogue a échoué.
L'historien et ancien secrétaire général du MSD, Deo Akidzimana, a été candidat indépendant à la présidentielle de 2010 au Burundi.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies affirme que les rebelles islamistes ADF Nalu, à dominante ougandaise, sont les principaux responsables des exécutions sommaires d'au moins 237 civils à Beni, dans l'est du pays, entre octobre et décembre de l'année dernière. Nick Long, le correspondant de La Voix de l'Amérique à Goma, a recueilli les témoignages de certains survivants. Son reportage est présenté ici par Jacques Aristide.
Ils se considèrent comme des miraculés car ils ont pu échapper à la mort, à l'image de ce jeune homme qui se remet de ses blessures à la machette. Il dit être convaincu que les assaillants appartiennent aux ADF parce que certains d'entre eux, ajoute-t-il, étaient des enfants et parlaient une langue qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Kambale Katsinda est un autre survivant. Une balle lui a été tirée dans le pied, mais il a quand même pu s'enfuir. Lui aussi montre du doigt le groupe rebelle ADF. Kambale affirme avoir été pris en embuscade, des hommes l'entouraient, ajoute-t-il, et lui pointaient leurs armes, la plupart armées de machettes. Il dit avoir survécu grâce à l'armée congolaise qui se trouvait à quelques centaines de mètres. Entre octobre et janvier dernier, des enquêteurs de l'ONU avaient été dépêchés dans la région, visitent des lieux où les massacres ont été perpétrés et rencontrent avec 180 témoins. Le chef du Bureau des Nations Unies pour les droits de l'homme en RDC, José María Ranaz.
Les conclusions principales du rapport, c'est les exécutions sommaires au moins de 235 personnes de manière systématique, planifié avec les buts prémédités par les ADF.
Les enquêteurs ont également entendu des allégations selon lesquelles des citoyens ordinaires et certaines autorités dans le territoire de Beni ont aidé les ADF dans leurs attaques, notamment en matière d'information et de logistique.
Il faut aussi remarquer qu'au moins il y avait 300 personnes arrêtées par les autorités congolaises dans le cadre des massacres et au moins 33 militaires de l'FRDC dans le cadre de la lutte contre l'impunité.
Le ministre congolais de l'information a également condamné ces attaques. D'après Lambert Mende, les ADF ont tué de nombreux enfants et femmes en souvent découpant leurs victimes en morceaux. L'armée congolaise poursuit ses opérations en pénétrant dans la forêt où le numéro 3 des ADF a été tué le 20 avril dernier. Lambert Mende a confirmé l'arrestation de nombreux habitants de Beni, y compris des soldats, dont certains ont déjà été jugés et condamnés. Après l'arrestation du chef des ADF, Jamil Mukulu, en Tanzanie, le gouvernement congolais a demandé son extradition pour qu'il réponde de ses crimes en RDC, que Kinshasa considère pire que ceux qu'il a commis en Ouganda.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Munganu à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
La jeunesse de Ouagadougou, à l'appel des partis politiques et mouvements sankaristes, est sortie en grand nombre jeudi pour accueillir Mariam Sankara, l'épouse du capitaine Thomas Sankara. Madame Sankara marque le grand retour après son séjour éclair effectué en 2007 pour le 20e anniversaire de l'assassinat de son époux. Voici un reportage de Zoumana Wonogo à Ouagadougou, correspondant de VOA Afrique.
Selon le programme établi par le service du protocole, Mariam Sankara se confie à la presse et le cortège s'ébranle pour son pied-à-terre. Mais c'était sans compter avec la détermination des jeunes venus l'accueillir. Ils ont bloqué le cortège pour, disent-ils, entendre Mariam Sankara. Et voici ce qu'elle a dit.
Je suis heureuse, fière, de fouler la terre du Burkina Faso. Cet accueil chaleureux me touche beaucoup. Votre présence massive témoigne de la marque de sympathie et de fidélité que vous avez pour le président Thomas Sankara. En ce moment précis, je pense aussi aux victimes, les martyrs du 30 et 31 octobre, qui, par leur courage et leur détermination, ont fait fuir le dictateur Blaise Compaoré. Je pense à la jeunesse, vous mes enfants, vous avez montré que unis, déterminé, conscient des enjeux de votre temps, aucun pays ne peut construire son avenir sans vous.
À la vue du micro VOA, chacun tenait à faire son témoignage. Bonaventure Savadogo portait une pancarte sur laquelle il était écrit « Bienvenue chez toi, Mariam ». Il l'explique.
Voilà parce que c'est notre maman. Nous sommes des orphelins. Nous sommes nés, on n'a pas bien connu notre papa. Et elle était partie. On avait besoin d'elle. Elle est arrivée. Et c'est bienvenue chez elle, bienvenue à la maison, parce que nous avons besoin encore de têter un peu.
Une des particularités des jeunes venus à l'aéroport est qu'ils ne sont pas nés sous Thomas Sankara, ou bien ils étaient au berceau quand Thomas Sankara vivait, suivant le récit de Salim Traoré.
Je ne connais ni Madame Sankara, ni le feu président Sankara, mais bon, par en tout cas ce que j'apprends, ce que je lis, c'est des idéaux auxquels j'adhère. Je trouve ça vraiment patriotique.
Alassane Zundi renchérit.
Je suis né le 1er août 1983, et c'est trois jours après que Sankara a pris le pouvoir, et il mourait avec 4 ans. Moi, je vois Mariam Sankara, je viens de naître comme ça. Je suis ému de joie. Sixièmement, je suis très fier de Mariam Sankara.
Nous avons découvert sur place le fan club Mariam Sankara et sa pointe de Ouidraogo a donné les détails.
Nous avons l'habitude de dire, derrière un grand homme se cache une grande dame. Donc si le président Thomas Sankara a su réussir sa mission, c'est qu'à côté de lui, il y avait Mariam Sankara. Et nous avons eu la victoire. Elle vient également pour que nous puissions fêter cette victoire-là ensemble. Et nous sommes très fiers de l'accueillir à l'aéroport international de Ouagadougou, que très prochainement la Guinée va exiger à ce qu'on baptise l'aéroport international Thomas Sankara.
Visiblement émis aussi, Odile Sankara, la petite sœur de Thomas Sankara, nous a confié la symbolique de la venue de Mariam Sankara.
C'est beaucoup d'émotion pour nous. Et aussi une victoire, parce qu'elle avait dit que tant que Blaise est là, elle n'allait pas venir au Burkina. C'est vrai, en 2007, elle est venue, mais c'était un autre symbole parce qu'elle est 20 ans et donc elle est venue, elle est rentrée moins de 24 heures. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le premier retour au pays. Voilà, le symbole, il est déjà là. Ça veut dire qu'il y a eu un changement.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, La Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h, temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de La Voix de l'Amérique.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson. À la console, c'était Jim Harmon. Avec vous, c'était Nathalie Barge. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com. We'll be right back.
cœur de l'info sur